Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Monceau, proposée par Michel Lafond. Pierre Barry devrait nous rejoindre en cours d'émission. Et cette semaine, nous allons parler de 9 nouveautés sur les écrans Monceau, les Banshees d'Inisherin, Cœur de Rocker, Unicorn Wars, Caravage, Vivre, Mégane, La Passagère, Interland, Joyland. Pour ce qui est de la programmation musicale, je suis allé picorer un petit peu dans tous les films et on va commencer par un titre qu'on a déjà entendu sur Clap et qui est assez fréquemment utilisé par les réalisateurs pour illustrer leurs films, c'est Soft Cell Tainted Love. Et ce Soft Cell Tainted Love, on l'entend dans le film Cœur de Rocker, dont on parlera dans un petit moment. Voilà, Soft Cell Tainted Love sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Tainted Love, un titre que l'on entend dans Cœur de Rocker. Mais notre semaine cinématographique, nous la commençons avec les Banshees d'Inisherin. Les Banshees d'Inisherin, c'est un film britannique de Martin McDonagh. Martin McDonagh, réalisateur, scénariste, producteur britannique, né en 70. Il a commencé par le court-métrage. Et puis en 2008, un très très bon film avec dans lequel on retrouvait déjà Colin Farrell et Brendan Gleeson. Bon baiser de Bruges, c'est un bon petit polar bien déjanté. 2012, 7 psychopathes avec Colin Farrell, Woody Harrelson et Christopher Walken. 2017, un film qui avait été oscarisé, me semble-t-il. Three Billboards, les panneaux de la vengeance avec Frances McDormand et Woody Harrelson. C'était très bien, voilà les trois films à l'actif jusqu'à maintenant de Martin McDonagh. Martin McDonagh, son film est proposé par le cinéma Les Cinéastes avec 2 séances par jour en VO, comme il se doit, bien entendu. 1h54 pour les Banshees d'Inisherin. Sur Inisherin, une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande, 2 compères de toujours, Padraig et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi Padraig n'accepte pas la situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux avec le soutien de Chioban, sa sœur, et de Dominique, un jeune insulaire un peu dérangé. Malgré les efforts répétés de Padraig, ne font que renforcer la détermination de son ancien ami, et lorsque Colm finit par poser un ultimatum désespéré, les événements s'enveniment et vont avoir de terribles conséquences. Une revue de presse qui n'est pas unanime, non, il y a des gens qui n'ont pas apprécié. On commence par ceux quand même qui ont aimé, qui vont même être dithyrambiques, carrément, c'est François Forestier dans l'Obs. C'est le meilleur film de l'année, haut la main. Drôle, tragique, absurde, grinçant, pathétique, tendre. Ce récit d'une amitié dévorée par le temps est un blues celte, matinée de mélancolie nordique. Eric Nohoff dans Le Figaro, tout cela n'a aucun équivalent dans le cinéma contemporain. Inutile de chercher Inisherin sur les cartes, l'endroit n'existe pas. Cependant, dans la lumière tremblante et les feux de tourbe, il peuplera désormais nos songes, nos insomnies, nos souvenirs. Osera-t-on prononcer le mot chef-d'œuvre ? On osera. Vous voyez, hein, ça monte très fort hein, quand même. Thierry Chaise dans West France, une fable noire aussi drôle que bouleversante, sublimée par l'interprétation du duo Colin Farrell, primé à Venise, et Brendan Gleeson. Céline Rouden la croix avec un sens consommé de l'absurde de la dérision. Le cinéaste Martin McDonagh va loin dans l'exploration de la nature humaine. Sandra Onada dans Libération, les Banshees d'Inisherin nous accueillent dans un conte théâtral, une sorte d'expérience de pensée en vase clos aussi abstraite que littérale. Frédéric Foubert dans Première d'un argument très mince qui assume son artificialité, Martin McDonagh développe une réflexion cocasse, cruelle sur la condition humaine et le désespoir existentiel. Télérama, Frédéric Strauss, un scénario étonnant et subtil sur les énigmes de la condition humaine. Brendan Gleeson et Colin Farrell brillent dans leurs registres respectifs. Vous allez me dire, mais tout le monde a adoré ce film. Mais non. Stéphanie Belpèche, le journal du dimanche, une chronique sans doute un peu vaine, mais qui questionne avec pertinence notre humanité. Et puis ça se gâte franchement avec Mathieu Macheret, Le Monde. L'arbitraire d'une écriture se cherchant de haute signification se heurte à l'étroitesse du pittoresque investi. Théorie Beton les Inrecuptibles, ce pittoresque artificiel, taillé sur mesure pour une poignée de grands noms en mal de typicité, offre un écrin en toc aux sous-intrigues que le film prend très au sérieux. Renaud Baronian, Le Parisien, en forçant sans cesse le trait, Martin McDonagh accouche d'un film d'une tristesse repoussante. On n'ira pas jusqu'à là, mais je dois dire que je ne suis pas tout à fait enthousiaste à l'égard de ce film. Ça m'a paru même très long. Alors l'histoire est simple au départ, elle se situe sur une petite île d'Irlande, on est en 1923, c'est la guerre civile, non pas sur le continent, parce que l'Irlande est elle-même une île, mais à quelques encablures de cette île d'Inisherin. Padraig et Colm étaient les meilleurs amis du monde, jusqu'à ce que Colm, sans que Padraig sache pourquoi, décide de ne plus lui parler et de cesser d'être son ami. Ça, du jour au lendemain, comme ça, sans préavis, comme on dit aujourd'hui. Padraig, qui ne comprend pas ce qu'il a pu faire pour qu'il en soit ainsi, eh bien, Padraig va tout essayer pour recoller les morceaux, mais ce faisant, ne va faire qu'accroître le fossé qui désormais le sépare de Colm. Étrange, absurde de voir un film qui parle à sa façon de solitude, de désespoir, de personnages têtus, butés, obstinés, dans une atmosphère rappelant parfois le Beckett dans L'Attendant Godot par le ton employé. C'est un côté absurde. Alors c'est sûrement profond, mais j'avoue ne pas en avoir saisi toutes les subtilités. Au lieu de cela, je dois dire que l'ennui m'a vite gagné, malgré la beauté des paysages et des décors, l'interprétation de qualité des acteurs, Brendan Gleeson, très taciturne, Colin Farrell plein de bonté, de naïveté, qui va dériver face à cette situation. Ça n'est pas vraiment drôle, en tous les cas, très peu ou que par moment. C'est de plus en plus dramatique au fur et à mesure de la progression de l'intrigue, mêlant une sorte de désespoir métaphysique, légende celtique et problème d'incommunicabilité. Tout cela m'a paru, comme l'ont dit certains critiques, bien artificiel, bien vain, un comble pour un film se déroulant dans un milieu quand même de gens très terre-à-terre. Mais bon, voilà, il y a certainement une métaphore là-dessous, et cette métaphore, je ne l'ai pas vraiment saisie. Alors, on peut penser à une métaphore sur le conflit irlandais avec cette impossibilité de communiquer entre ces deux hommes qui serait symbole de l'impossibilité de communiquer entre protestants, catholiques, anglais, irlandais, etc. Peut-être, voir. Bon, voilà, les Banshees d'Inisherin, c'est au cinéma les cinéastes, et je ne suis pas un grand fan de ce film, alors que j'y partais avec un a priori très favorable, ayant beaucoup apprécié les précédents films de Martin McDonagh. Cœur de rocker, là on change vraiment totalement de registre. Cœur de rocker, C'est un premier film français de Ida Teicher et Luc Bricot. Tous les deux sont réalisateurs de ce film, mais Ida Teicher est aussi actrice et scénariste, et Luc Bricot a auparavant été assistant réalisateur. Ce premier film, on peut le voir au Pâté Quinconce, on peut le voir au Colisée, on peut le voir au Méga CGR. Alors, ça dure 1h31, et la presse ne s'est pas déplacée en masse pour le voir, la revue de presse étant réduite à la portion congrue. Alors, de quoi est-il question dans Cœur de rocker? Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job, faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de seniors ingérables qui ne rêvent que d'une chose, chanter du rock. La mission d'Alex va s'avérer plus compliquée que prévu, avec la plus improbable des chorales. L'Obs, Xavier Le Harper, un pur feel-good movie entre comédie cocasse et portrait social. Le Parisien, une comédie sans surprise, mais carrément drôle et feel-good. Voilà, c'est tout pour la revue de presse. Eh bien, ce film, je l'ai vu, c'est très librement inspiré de l'histoire de la chorale du troisième âge Salt and Pepper, qui existe vraiment dans la région de Dunkerque. C'est l'exemple parfait, donc, comme l'ont déjà dit les deux critiques, de ce qu'on appelle les feel-good movies. Et ici, c'est un feel-good movie pour les seniors. C'est l'histoire donc de Alex, mère divorcée, deux enfants, chanteuse passée à côté de sa carrière, qui court le cacheton et qui, pour faire bouillir la marmite, accepte de diriger une chorale de vieux. Oui, bah, on va dire ça, c'est les vieux, moi j'en suis un, donc j'assume parfaitement. Le problème, c'est que ces derniers ne veulent pas chanter des chansons traditionnelles style sur le pont de Nantes. Ils ont déjà épuisé plusieurs chefs de chorale. Non, ce qu'ils veulent, c'est chanter du rock. Ben oui, du rock. Ben, après tout, disent-ils, ils ont l'âge de Mick Jagger. Eh ben oui, ils ont plus de 70 ans, et Mick Jagger aussi. Cela ne va pas aller de soi, parce qu'ils dérangent un petit peu trop certains, et ils dérangent un petit peu trop aussi l'ordre établi. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un film sympathique. Alors, le scénario est vraiment léger, hein. Il a bien du mal à dépasser le pitch de départ qu'on vous a lu il y a un instant, mais les personnages sont attachants. Et puis, c'est aussi l'occasion pour les auteurs de jeter un regard sur la place des gens du troisième âge dans la société actuelle, leurs problèmes, comment ils sont vus, perçus par les autres générations, montrer qu'on peut faire preuve d'enthousiasme à tout âge et que cela peut faire du bien de se retrouver en groupe, de chanter, de partager quelque chose. Alors, ces vieux sont interprétés par une belle brochette d'acteurs confirmés depuis bien longtemps. Il y a par exemple Andrea Ferréol, il y a Bernard Lecoq, il y a Brigitte Rouen, j'en passe, et notamment il y a Anne Benoît, avec son étonnant timbre de voix grave qui se détache peut-être du lot parce que son personnage est peut-être le plus touchant et en tous les cas celui qui a la part la plus belle au niveau du chant. Bref, c'est un film agréable, aux péripéties certes attendues, hein. Mais après tout, pourquoi seuls les jeunes auraient droit à des films faits pour eux? Donc, si vous avez passé la soixantaine, ça risque de vous ennuyer quand même un petit peu. Si vous avez passé la soixantaine, le film a tout pour vous distraire. C'est un film de pure distraction et vous devriez l'apprécier, même si c'est sans surprise. Ça, je le concède sans difficulté. Ça s'appelle Cœur de rocker. On peut le voir au Colisée, au Pâté Quinconce, au Méga CGR. Par contre, Unicorn Wars, dont je vais vous parler maintenant, eh ben, on ne peut le voir qu'au cinéaste. Et attention, pas tous les jours, Unicorn Wars. Désormais, c'est samedi à 17h10 et lundi à 18h30. Alors, c'est marrant parce que ce sont des heures pour les enfants. C'est un film d'animation, mais c'est interdit au moins de 12 ans. Et paraît-il, ça charcle pas mal dans ce film. Unicorn Wars de Albert Vasquez, ou plutôt Alberto Vasquez, puisque c'est un réalisateur scénariste espagnol qui avait réalisé déjà en 2005 Psychonautas, dessin animé co-réalisé avec Pedro Rivero. Auparavant, il avait à son actif quelques courts-métrages. Et puis là, c'est un film d'animation, 1h32. En ces contrées reculées, oursons et licornes sont en guerre depuis toujours. Le soldat célestin a soif du sang des licornes, gage d'une beauté éternelle, selon le grand livre sacré. Son frère Dodu, lui, n'aime pas la guerre. Il préfère les myrtilles et les câlins. Mais la bataille finale approche. Une unité d'oursons inexpérimentés quitte le camp d'entraînement pour une mission commando dans la forêt magique. Seront-ils à la hauteur? Alors, le pitch, c'est très, très mystérieux. Ça fait un petit peu film pour enfants, mais visiblement, ça ne l'est pas le cas du tout, puisque le film est interdit au moins de 12 ans, je le rappelle. 20 minutes, qu'en pense-t-il, Caroline Vier, plutôt qu'en pense-t-elle? Ce film virtuose est fait de l'étoffe dont on tisse les cauchemars, tout en offrant une réflexion aiguë sur le monde. Perrine Canesson dans Écran large, malgré quelques maladresses narratives qui ajoutent quelques chaos au chaos, K-O-C-H-A-O-T au K-O-C-H-A-O-S, Unicorn Wars d'Alberto Vasquez s'impose comme un conte cruel, brillant, aux ambitions assumées, aussi bien politiques que mythologiques. La Bible et consorts n'ont qu'à bien se tenir. Les Oursons débarquent et ne viennent pas pour la guimauve. Laurent Duroche dans Mad Movies, au-delà d'un univers chatoyant qui ne cesse de capter le regard par un goût visuel très sûr, la grande qualité d'Unicorn Wars est incontestablement son script qui établit une subtile gradation dans sa progression vers le drame épique, mélodramatique et horrifique. Vous voyez, les critiques ont apprécié, c'est aussi le cas de Cécile Murie dans Télérama. Cet ovni inquiétant parle de racisme, de fondamentalisme religieux et de perversité tous azimuts en débordant d'imagination et d'idées visuelles vénéneuses. Un poison enivrant à réserver aux adultes. Stéphanie Bellepêche dans le dimanche, un ovni inclassable, impitoyable et terrifiant, surgit de nulle part. La rédaction de West France parle d'un film d'une noirceur fascinante. Perrine Kenneson dans Cinématiseur, malgré un ventre mou difficile à passer, Unicorn Wars ne recule jamais devant l'ampleur mythologique qu'il gagne au fur et à mesure pour un final aussi puissant que surprenant. Et Mathieu Machuré dans Le Monde, l'acharnement avec lequel Vasquez éventre ou défigure ses oursons mignons diffuse parfois des relents fétides, mais la charge anti-viriliste est efficace. Je dois dire que tout ce que j'ai lu sur Unicorn Wars me donnait envie de le voir, mais le problème, c'est les horaires. Et les horaires, je le répète, au cinéaste, il n'y a pas de séance tous les jours. Il n'y en a plus que deux d'ici la fin de la semaine, samedi à 17h10 et lundi à 18h30. Un film, bien entendu, en version originale, puisque nous sommes au cinéaste. Et se répète, interdit moins de 12 ans. Allez, petite pause musicale, on change complètement de registre. On va partir dans du folklore anglo-saxon. Ça s'appelle The Rowan Tree. C'est Lisa Knapp. Et cette chanson, on l'entend dans le film Vivre, dont on va parler dans un petit moment. Vivre, c'est le titre du film. The Rowan Trees, c'est le titre de la chanson.
Spring, thy flowers, the summer's pride. There was ne'er such a bonny tree in all the countryside. How fair were thou in summertime, with all thy clusters white, how rich and gay thy autumn dress, with berries red and bright. On thy fair stem were many names, which now
The Rowan Tree, Lisa Knapp. Ce titre, on l'entend à plusieurs reprises dans le film, mais cette version-là, c'est celle qu'il y a sur le générique de fin du film Vivre, dont on parle dans 5 minutes. On commence notre deuxième volet de film à l'affiche et nouveautés sur les écrans morceaux avec Caravage. Caravage est proposé au Méga CGR et aux cinéastes, aux méga CGR version française et même, je crois, version originale, cinéaste et bien entendu version originale, 2 séances par jour pour ce film de Michele Placido, acteur, réalisateur, scénariste italien, né en 1946. Il a à son actif un certain nombre de films en tant que réalisateur, dont beaucoup sont quand même inédits en France. Il a commencé en 1989 avec Pumaro, ça c'est inédit. En 1992, Les Amis de cœur avec Asia Argento était sorti. En 1994, Un héros ordinaire avec Fabrizio Ventimoglio et lui-même Michele Placido. Et puis ensuite, d'autres films, et notamment, par exemple, celui qui est le plus célèbre, Romanzo Criminale, avec Anna Mouglalis en 2005. 2008, Le rêve italien, avec déjà Riccardo Scamarcio et Jasmine Trenca. 2010, L'ange du mal, avec Kim Rossi Stewart. 2011, Le guetteur, avec Mathieu Kassovitz et Daniel Auteuil. Et 2016, 7 minuti. Avec Anne Consigny et Clémence Poesi. Voilà donc la filmographie de Michele Placido. Le film dure 1h56. Italie 1609, accusée de meurtre, le Caravage a fui Rome et s'est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, le Caravage tente d'obtenir la grâce de l'Église pour revenir à Rome. Le pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, l'Ombre, une enquête sur le peintre dont l'art est jugé subversif et contraire à la morale de l'Église. Éric Bietri-Rivière dans Le Figaro. Placido livre là un biopic intelligent et respectueux, car plutôt que de verser dans le banal film de cap et d'épée, il s'est surtout employé à rendre le côté mystique et écorché vif du personnage, peintre star de son époque avec les caprices et les audaces que cela comporte. Le Parisien Michele Placido, réalisateur de Romanzo Criminale, fait entrer dans la vie et la tête du Caravage, manieur de pinceau et d'épée, aussi bien les profanes que les spécialistes. Stéphanie Belpech, Le Journal du Dimanche, un récit à vertu pédagogique qui analyse le processus créatif de la façon démonstrative et captive par sa chasse à l'homme en dépit d'une mise en scène qui manque parfois d'envergure. Véronique Coapé dans Le Monde, l'histoire qui nous est contée du Caravage participe dans le film à l'élaboration progressive d'une large fresque qui épouse les contours, le grain, les couleurs et les clairs-obscurs de l'œuvre du peintre, mais qui aussi restitue la misère, la saleté, la violence et la beauté qui parfois surgissent au milieu du chaos. Malgré quelques postures théâtrales et certains traits esthétiques empesés, ce parti pris parvient à protéger le film de l'académisme fréquemment adopté en pareil exercice. Céline Rodin dans la croix finale, le film n'échappe pas à un certain académisme et malgré les efforts de Riccardo Scamarcio, peine à donner vie à ses personnages. Thierry Chaise en première, cette obsession pédagogique, vous voyez le terme apparaît à plusieurs reprises dans les critiques, cette obsession pédagogique enferme le film dans un classicisme et par ricochet, une absence d'audace qui contredit au fond son sujet. Charlotte Garçon, cahier du cinéma, des dangers de la truculence, soucieux de ne pas soumettre à un traitement trop léché le subversif Caravage, qui déclarait « Je cherche le réel », Michele Placido signe une cinecittade débordant de crasse académique, de rousseur généralisée et de contre-réforme hypostasiée. Ouais, ça veut dire qu'elle n'a pas aimé Charlotte Garçon. J'ai vu, moi, Caravage, je l'ai vu en version originale au cinéaste, mais on peut le voir aussi en version française au pâté. Non, pardon, pas au pâté, au méga CGR. Caravage, eh bien, on peut considérer le film comme un biopic, mais oui, puisqu'il raconte les dernières années de la vie du Caravage. Sur la forme, ben, c'est une enquête menée par l'inquisiteur, l'Ombre, qui est un personnage fictif. Cet inquisiteur, eh bien, il est chargé de mener cette enquête afin de remettre un rapport au pape pour savoir si celui-ci doit accorder sa grâce au peintre pour un meurtre commis à Rome quelque temps auparavant. Cette enquête permet d'évoquer ce que fut le peintre, ses protecteurs, ses adversaires, et bien sûr, sa carrière, sa peinture, ses tableaux, qui se distinguent non pas par les sujets traités, il s'agit essentiellement de scènes bibliques, et il ne pouvait pas en être autrement, vu ses commanditaires, qui étaient souvent le pape, ou des couvents, ou des églises, mais surtout par le choix de ses modèles, car pour peindre le Christ, Marie-Madeleine, ou autres personnages bibliques, Saint Paul, etc., eh bien, le Caravage utilise des gueux, des bandits, des prostituées, des personnages, des bas-fonds qui constituaient les fréquentations du peintre dans sa vie quotidienne, en dehors de ses prestigieux protecteurs, qui étaient eux, par contre, des gens de la haute noblesse ou des hommes d'église. Michele Placido s'attache donc à ces aspects de sa vie, ses confrontations, sa vie de débauché dans les faubourgs populaires de Rome et de Naples. L'image est magnifique, oui, l'image est magnifique. Les reconstitutions des bas-fonds sont splendides, presque félinienne par moments. Oui, oui, je suis étonné que peu de critiques ne l'aient souligné, mais on pense par moments un petit peu à Fellini. dans cette évocation des bas-fonds. Ricardo Camarcio est comme habité par son personnage, dont il nous livre une interprétation saisissante, d'écorché vif, je reprends le terme qui a été employé par un critique. C'est un film d'une grande beauté picturale, aux teintes clair-obscures, comme celles qui ont fait la renommée du Caravage. Alors c'est bien le moins vu le sujet, donc. On se demande toutefois si les auteurs n'ont pas quand même eu tendance à plaquer des préoccupations contemporaines, si Michele Placido n'a pas placé des préoccupations contemporaines sur un sujet se déroulant fin 16e, 17e siècle. Et donc, de parler du rôle de l'artiste dans la société de l'époque, bridé par les contraintes de l'époque, qui sont totalement différentes de ce que sont les contraintes d'aujourd'hui. En tout cas, on apprend des choses, donc c'est le côté pédagogique souligné par plusieurs critiques, on apprend des choses, et c'est déjà bien, nonobstant les qualités visuelles du film que j'ai déjà soulignées. Donc ça s'appelle Caravage, et moi je le recommande malgré tout, surtout si on veut s'instruire un petit peu, d'aller voir ce film au Méga CGR, ou au pâté quinconce. Mégane, là, c'est pas si vous voulez vous instruire, Mégane, c'est si vous voulez vous faire peur. Mégane, c'est un film, on va dire, d'horreur, d'épouvante, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mégane, c'est interdit moins de 12 ans, on peut le voir au Méga CGR et au pâté quinconce. 1h41, Mégane est un miracle technologique. Ça a été réalisé, au fait, je ne l'ai pas dit, par Gerard Johnstone. Gerard Johnstone, je n'ai pas été chercher sa filmographie, je dois confesser cette erreur. Mégane est un miracle technologique, une cyberpoupée dont l'intelligence artificielle est programmée pour être la compagne idéale des enfants et la plus sûre alliée des parents. Conçue par Gemma, la brillante roboticienne d'une entreprise de jouets, Mégane peut écouter, observer et apprendre tout en étant à la fois l'ami, le professeur, le camarade de jeu, la protectrice de l'enfant à qui elle est liée. Quand Gemma devient tout à coup responsable de sa nièce de 8 ans, Cady, dont les parents sont soudainement décédés, elle n'est absolument pas prête à assumer son rôle. Débordée sous pression au travail, elle décide de lier le prototype Mégane, encore en développement, à la petite fille, dans une tentative désespérée de résoudre ses problèmes sur ses deux fronts. Une décision qui va entraîner d'épouvantables conséquences. Et bien oui, c'est un film d'horreur, donc forcément, à un moment, ça va mal se passer. C'est interdit moins de 12 ans, La Presse, Jean-François Roger, Le Monde, en résumé, fait efficacement peur. Le film est en effet soutenu par un art particulièrement habile de la progression dramatique, de la montée de l'angoisse, et une manière de changer d'affect en cours de récit, de passer d'une forme mélodramatique et sentimentale au déchaînement cathartique d'une violence à la fois libératrice et morbide. Ouais, rien que ça, hein. Stéphanie Belpeche, dans le Journal du Dimanche, pétrit de références à Chucky, à Terminator. Ce récit impitoyable mais sensible se révèle très efficace grâce à son scénario qui manie un humour vitriol et assume son parti pris jusqu'au bout. Cécile Murie dans Télérama, rien que du réchauffé, pas même un petit frisson inédit. Je n'ai pas vu Mégane, mais je ne vous empêche pas d'aller voir ça, bien entendu. Ça dure 1h41. C'est au Méga CGR, c'est au Pâté Quinconce et c'est interdit moins de 12 ans. Par contre, je vais vous inciter vivement à aller voir le film dont on va parler maintenant. Ce film s'appelle Vivre, le titre original Living. C'est un film britannique d'Olivier Oliver Hermanus, réalisateur, scénariste, producteur d'origine sud-africaine, né en 83. Son premier long-métrage est inédit, ça s'intitulait en 2009 Charlie Adams. 2011, il réalise Beauty. 2013, La rivière sans fin, avec Nicolas Duvauchel, mais sorti uniquement en VOD. Et en 2019, Moffy. Voilà, Vivre, Living in English. Ça dure 1h42, c'est proposé par les cinéastes avec une ou deux séances par jour, le plus souvent deux séances par jour. C'est en 1953, Londres, qui pense encore ses plaies après la Seconde Guerre mondiale. Williams, fonctionnaire chevronné, est un rouage impuissant dans le système administratif de la ville qui doit se reconstruire. Il mène une vie morne, sans intérêt, mais tout change lorsqu'on lui diagnostique une maladie grave qui l'oblige à faire le point sur son existence. Rejetant son quotidien banal et routinier, Williams va alors se dépasser et enfin vivre pleinement sa vie. Alors, il faut préciser que ce film est un remake d'un film de Kurosawa, Akira Kurosawa, sorti dans les années 50. West France, Gilles Kerdreux, avec un merveilleux sens du cadre de la photo, Oliver Hermanus, jeune réalisateur sud-africain de 39 ans, rafraîchit le classique de Kurosawa sans perdre toute la réflexion sur le sens de la vie. Guillemette Odissino Télérama, pierre angulaire, magnifiquement anguleuse, de ce grand film contre le froid des sentiments, Bill Nighy, s'impose comme un véritable monument britannique. fascinante est sa capacité à provoquer un torrent d'émotions avec une infime lueur d'enfance retrouvée sur son visage de zombie. Oui, zombie, c'est le surnom que lui donne un des personnages dans le film. Ou un minuscule rire qui fait tressauter ses épaules de grand héron décharné. Rose Piccinni dans Cinématiseur, d'une délicatesse et d'une intelligence qui force l'admiration, faisant de ce vivre une splendeur. Olivier Delcroix, Le Figaro, dans le sillage des grands mélodrames de Douglas Sirk, la bouleversante chronique intimiste d'Oliver Hermanus s'affiche comme un film dépouillé, poignant, tout en non-dit et dont le spectateur ressort la gorge nouée. Je confirme. Nicolas Chalère dans l'Obs Technicolor, image au format 1.66, ambiance 1.70 fait un format carré quoi en fait. Hein. Ambiance compassée, l'exercice de style a son charme, mais le soin fétichiste qui met le réalisateur Oliver Hermanus en alourdit la pudeur émotionnelle. Et Stéphanie Belpech, de Journal du Dimanche, à force de choisir la pudeur, la retenue et l'austérité, le réalisateur tient à distance le spectateur et le prive de toute émotion. Ben, je ne suis pas vraiment d'accord avec Stéphanie Belpech. J'ai vu Vivre, je l'ai vu bien entendu au cinéaste, puisqu'on ne peut le voir que dans ce cinéma-là. Et je dirais que ce film est magnifique, magnifique, mais d'une infinie tristesse et d'une grande dignité. C'est l'histoire de M. Williams, c'est un homme d'âge mûr, dans la cinquantaine, mais bien tassé, un homme d'âge dur, mûr, terne, un chef de bureau à la mairie de Londres. Il mène une vie bien rangée, sans la moindre vague, un travail aussi routinier que son quotidien, un type complètement coincé dans l'ambiance de son époque, Londres des années 50, juste au sortir de la guerre, et coincé dans l'ambiance de son époque, et aussi de sa caste de parfait gentleman. Mais un jour, eh bien, M. Williams apprend qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre parce qu'il est atteint d'un cancer. Il décide alors de changer. Alors, changer, pas de faire la révolution, non, non, pas du tout. C'est juste de revoir ses priorités, sa façon d'être avec les autres, avoir un regard nouveau sur les gens, sur les choses, et notamment à travers la réalisation d'un projet complètement anecdotique de jardin d'enfants, mais pour lequel il s'investit, plus qu'il ne s'était jamais investi de sa vie, pour les projets qu'il a à résoudre et qui sont son quotidien dans son travail. Bill Nighy fait une composition absolument saisissante, d'une sensibilité intense, tout en intériorité, tout en subtilité. C'est d'une sobriété absolue, mais c'est touchant au plus profond. C'est un film sur la fin de vie. C'est remarquable en tout point. L'interprétation, donc, mais le reste du casting est absolument parfait également. La direction artistique, les décors, les costumes, la mise en scène, la photo, tout ça, c'est absolument formidable. C'est un film splendide, un film poignant, à vous arracher des larmes, mais oui, vraiment, c'est un immense mélo comme on en faisait autrefois. C'est un film qui se mérite parce que le film dure 1h42 et pendant, on peut dire, les 30-35 premières minutes, il ne se passe pas grand-chose, c'est pas très intéressant, c'est même franchement ennuyeux. Et puis, à partir du moment où M. Williams découvre ou qu'on lui apprend qu'il a un cancer, eh bien, tout change et tout devient absolument bouleversant. Vivre, c'est un film que je recommande, ça sera même d'ailleurs pour moi mon film de la semaine, et qu'on peut voir au cinéaste. Petite pause, eh bien, petite pause musicale. Dans Cœur de Rocker, on entend surtout les acteurs chanter, mais ils chantent des chansons de rock, et ils chantent notamment cette chanson des Clash, Should I Stay or Should I Go. C'est pas la version du film, c'est la version des Clash sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Double. So come on and let me decision's bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me careless, you got me.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
The Clash, Should I Stay or Should I Go? Ce n'est pas la version qu'on entend dans le film Cœur de Rocker, mais ben, écoutez, pourquoi on n'aurait pas le droit d'écouter les Clash aujourd'hui, après tout, hein? Interland, c'est un film proposé par le Colisée, avec 3 séances par jour en version originale. C'est un film de Stefan Ruzovitsky. Stefan Ruzovitsky, c'est un réalisateur scénariste autrichien. Il a à son actif un certain nombre de films inédits, Les Héritiers, Anatomie 2, mais aussi d'autres qui sont sortis, 2001, Anatomie, 2007, Les Faussaires, 2009, Lily, La Petite Sorcière, Le Dragon et le Livre Magique. Et puis des films sont sortis en DVD comme Cold Blood avec Eric Bana et Olivia Wilde, et puis en VOD comme en 2017 Cold Hell et en 2018 Patience Zéro. Voilà, donc moi j'ai pas vu, ça me dit rien, les films de Stefan Ruzovitsky. Alors, Vienne 1920, après l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, Peter Berg, soldat de la Grande Guerre, revient de captivité. Tout a changé dans sa ville où le chômage et les pulsions nationalistes prennent chaque jour un peu plus d'ampleur. Il se sent étranger chez lui. Soudainement, plusieurs vétérans sont brutalement assassinés. Touché de près par ses crimes, Peter Berg s'allie à Teresa Körner, médecin légiste, pour mener l'enquête. Au fur et à mesure de ses découvertes, Peter se retrouve malgré lui mêlé aux événements et doit faire face à des choix cruciaux dans un chassé croisé aux allures de thriller expressionniste. Très partagé, la rue de presse. Caroline Vie dans 20 minutes, Interland du cinéaste autrichien Stefan Ruzovitsky est plus qu'un excellent thriller. C'est une œuvre visuellement somptueuse, hommage à l'expressionnisme allemand qui magnifie le Vienne des années 20. Emmanuel Spalacenta, cinématiseur, une immersion totale dans un chaos mental, politique et social bluffant, conclut-elle. Le Figaro Olivier Delcroix, un polar historique qui joue avec les codes du film fantastique, impressionnant, dit-il. Thierry Chaise en Ouest-France, un parti pris formel audacieux qui donne du relief à ce thriller singulier. Et dans Première, Thierry Chaise continue, un geste artistique audacieux, les rues de Vienne recréées en numérique sur fond vert, dans une ambiance évoquant le cinéma expressionniste de ces années-là, et créant une atmosphère tout à la fois dérangeante et étouffante, écrin parfait à son récit. Alors l'expressionnisme, c'est par exemple Fritz Lang, hein, ce genre de réalisateur, Pabst, etc. L'écran fantastique, Jérémy Auro, geste baroque, plein de relief esthétique, mais à la narration, comme par esprit de contradiction, assez plate. Interland donne ainsi par moments le sentiment de frôler la démonstration teintée d'artificialité, mais à la fin, c'est tout de même l'audace, l'expérience vertigineuse et la virtuosité de la direction artistique qui l'emporte sur tout le reste. Jacques Mandelbaum dans Le Monde, l'exercice de style prend ainsi le pas sur la mise en scène, conférant à ce film une identité incontestablement originale, mais un peu anecdotique. Ludovic Béot, Les Inrecuptibles, Servi par des dialogues étonnamment vides et artificiels et d'une ligne dramatique digne d'un polar de gare glauque, il ne parvient jamais à insuffler une quelconque tension et oscille quelque part entre une imitation bon marché de Sin City et le naufrage de Vidocq. Bayon. Yannick Velu, Paris Match, hélas, la curiosité s'estompe assez vite. La faute à un scénario qui semble emprunter sa narration aux jeux vidéo d'aventure des années 90, quand il fallait visiter un lieu, interroger un témoin et passer à l'écran suivant. Libération Camille Nevers. On s'ennuie ferme devant cette fiction horriblement poseuse, figée dans un Vienne de carton-pâte bleuté. Ça s'appelle Interland, ça dure 1h38. C'est proposé par le cinéma Le Colisée. 3 séances et de la VO. Joyland, retour cette fois-ci au cinéma Les Cinéastes. Joyland, une séance par jour pour ce film. Attention, pas de séance mardi, mais c'est un film de Saïm Salik. C'est son premier long-métrage, réalisateur, scénariste et monteur pakistanais. C'est pas fréquent, les réalisateurs pakistanais sous nos latitudes, en tous les cas, qui sortent des films, qui soient distribués. À Lahore, Haider et son épouse cohabitent avec la famille de son frère au grand complet. Dans cette maison où chacun vit sous le regard des autres, Haider est prié de trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il déniche un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse sensuelle et magnétique. Alors que des sentiments naissent, Haider se retrouve écartelé entre les injonctions qui pèsent sur lui et l'irrésistible appel de la liberté. 2h08 pour ce film de Saïm Salik, premier long métrage. La presse est unanimement élogieuse. C'est par exemple Pierre Barbancé dans L'Humanité. Joyland est un petit bijou attachant, surprenant, plein d'intelligence. Renaud Barognan dans Le Parisien. Joyland est un long métrage hors catégorie, unique, original, une pure merveille bouleversante qui raconte une love story enflammée en dénonçant les travers sociaux et religieux de son pays. Perrine Kenesson dans Cinématiseur, premier long métrage de son réalisateur. Joyland est une ode au désir. Il surprend, désarçonne et surtout bouleverse. Étienne Sorin, Le Figaro. La noirceur du tableau dépeint par Saïm Salik est rehaussée de belles touches de couleurs. Joyland n'est jamais misérabiliste. Sandra Onana dans Libération, car le film est vibrant et sensuel. Télérama entre fantaisie et vraie confrontation à la solitude de désir incompris. Un très beau film plein de vie et de courage. Estelle Aubin, première. Saïm Salik filme sans effet démonstratif la banalité d'une liaison amoureuse, les premiers émois, les longs dilemmes, les tabous, le retour des mœurs locales. L'amour est politique chez Salik, politique et mélancolique. Et enfin, Alexis Campion dans Le Journal du Dimanche. Autour de trois personnages qui le rend aussi attachant que passionnant, Saïm Salik compose un drame coloré, vivant et finalement tragique, où la quête de liberté bute en permanence contre les interdits d'une société sans nuance, établie sous l'affirmation d'un patriarcat dangereux pour chacun. Voilà, ça s'appelle Joyland, ça dure 2h06, c'est proposé par les cinéastes avec une séance par jour, sauf mardi. Dernier film dont on va parler cette semaine, c'est La Passagère. C'est un premier film d'une réalisatrice française qui s'appelle Héloïse Péloquet. Ça dure 1h35, c'est proposé par Le Pâté Quinconce. C'est un film avec Cécile de France. Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux et amoureux. Elle a appris le métier d'Antoine, la pêche, et travaille à ses côtés depuis 20 ans. L'arrivée de Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara. Yves Jéglé dans Le Parisien. Tout est écrit, mais rien n'est attendu. La passagère plaît par ce canevas venu du fond des âges, dans un décor et avec des personnages qui surprennent à chaque instant jusqu'au final. Olivier de Bruyne dans Marianne, aux antipodes du parisianisme, souvent de mise en scène dans le cinéma hexagonal, ce coup d'essai filmé au plus près des éléments naturels et du monde du travail en mer, étonne et convainc grâce à sa simplicité et à sa sensualité. Thierry Chaise dans Ouest France, un superbe portrait de femme libre, merveilleusement campé par Cécile de France. L'Obs, Xavier Lerper, parle d'un vrai désir de cinéma. Isabelle Magnier dans Télé 7 jours, on croit savoir où nous emmène le récit. Or, ce film solaire, souvent galvaudé, l'adjectif est ici absolument mérité, va à contre-courant d'une classique histoire d'adultère. Alexis Campion, autour d'un scénario balisé. Alexis Campion dans Le Journal du Dimanche, autour d'un scénario balisé. Héloïse Péloquet propose une mise en scène haletante, centrée sur la présence bouleversante de Cécile de France, déjouant les clichés de la femme adultère languissante. La Croix, Corinne Renoux-Nativelle, le scénario relativement ténu, ne réserve guère de surprise dans la narration d'un adultère somme toute banal, malgré les différences d'âge et de milieu de Chiara et de Maxence. Didier Perron, Libération. Le film, cependant, ne convainc qu'à moitié, quand bien même son récit est séduisant. Muriel Jouzet dans Le Monde. La passagère pêche sur deux tableaux. Celui bien connu qui consiste à opter pour un naturalisme par défaut, une caméra portée qui règle à elle seule toutes les questions de mise en scène, puis un problème concomitant d'incarnation, puisque les acteurs se débattent à l'intérieur d'un scénario mécanique et d'un film uniquement centré sur son sujet, sans pour autant parvenir à faire sentir la violence du dilemme qui s'impose à Kera, dit la brûlure de la honte sociale. Ça s'appelle La Passagère. C'est proposé par les cinéastes et... Non, pas par les cinéastes, pardon, excusez-moi. C'est proposé par le Pathé Quinconce. C'est le portrait d'une femme d'aujourd'hui. C'est l'histoire, somme toute, banale d'un adultère dont la seule originalité, c'est de mettre aux prises cette femme de 45 ans avec quelqu'un de beaucoup plus jeune qu'elle, puisque le deuxième personnage, Maxence, doit avoir une vingtaine d'années. Kera est en effet mariée à Antoine depuis plus de 20 ans. Tous deux forment un couple de marins-pêcheurs heureux et qui s'aiment. Mais quand ils accueillent en apprentissage Maxence, eh bien, une attirance se fait de plus en plus pressante entre ce dernier et Kera et remet en cause l'équilibre du couple parce qu'on ne résiste pas à un coup de foudre et Kera ne va pas résister à ce coup de foudre. Surtout, voilà, le problème, c'est que dans cette petite île où ils vivent et travaillent, eh bien, tout finit par se savoir et les problèmes vont éventuellement commencer pour Kera. Pas grand-chose à dire sur ce film, hein, si ce n'est que Cécile de France y est rayonnante en femme amoureuse. La situation est sans grande originalité, hein, une histoire d'adultère, on a déjà vu un million de fois ça au cinéma. Et si le contexte social est bien vu, hein, la vie des marins pêcheurs côtiers avec ses difficultés, ben cette trame sociale, ce n'est qu'une toile de fond à cette histoire de relations amoureuses et charnelles, finalement assez ordinaire, même s'il faut reconnaître dans ce genre d'histoire, eh bien la différence d'âge est souvent dans l'autre sens, c'est-à-dire que souvent on a un monsieur d'âge mûr qui s'éprend d'une jeune fille beaucoup plus jeune que lui, mais ce qui pouvait choquer jadis une femme de 45 ans avec un jeune de 20, ce qui pouvait choquer jadis, il y a eu des films là-dessus, hein, le film Mourir d'aimer, par exemple, eh bien, ce qui pouvait choquer jadis ne suscite, me semble-t-il, guère de problèmes aujourd'hui ou de réprobation liée à la différence d'âge. À la tête de l'État, nous avons bien quelqu'un qui a une différence d'âge encore plus importante que celle que nous évoquons ici. Donc, à l'arrivée, un film un peu passe-partout, sans grand intérêt, si ce n'est un beau portrait de femme moderne, avec quand même une fin un petit peu inattendue, tout de même, quand on y réfléchit un petit peu, c'est après tout logique, mais on a l'habitude de voir des fins un peu plus classiques, un peu plus attendues. Là, c'est un petit peu inattendu, et c'est peut-être les cinq dernières minutes qui arrivent à sauver le film de la banalité absolue. Voilà, La Passagère, c'est proposé par le cinéma... Pathé Quinconce. Mon camarade Pierre devait nous en parler, mais Pierre n'a pas pu arriver à temps pour en parler. Son rendez-vous a dû sans doute s'éterniser. Allez, avant de nous annoncer les films de l'affiche la semaine prochaine, un titre qu'on entend justement dans La Passagère, dans une scène de boîte de nuit, c'est Call Me, très connu, Call Me, Blondie, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. un titre que l'on entend sur le film La Passagère, dont on vient de parler. Les films en avant-première, eh bien, aujourd'hui, si vous nous écoutez en direct, eh bien, au Pâté Quinconce, à 16h15, il semblerait qu'il y ait un film qui s'appelle Zodi et Théu, Frères du désert, film d'Éric Barbier avec Alexandra Lamy. Alors, c'est un film qui sortira qu'en février, 16h15, aujourd'hui, avant-première pour ce film. Ça me semble être plutôt un film pour enfants, mais c'est peut-être pour ça. Sinon, pour les enfants, eh bien, aujourd'hui aussi, eh bien, à 13h40 au Méga CGR, vous pourrez voir Patty et la colère de Poséidon. C'est un film, là aussi, pour enfants. Sinon, la semaine prochaine, nous parlerons de 16 ans de Philippe Lioré. J'aime beaucoup Philippe Lioré. De Nostalgia de Mario Marton. De Cet été-là d'Éric Lartigot. De Tirailleurs de Mathieu Vadepied. Je l'ai vu, Tirailleurs, c'est intéressant comme film. Les Survivants de Guillaume Renusson. Venez voir sera proposé aux cinéastes, ainsi que L'étrange histoire du coupeur de bois, et aussi Professeur Yamamoto part à la retraite. Voilà, donc la semaine prochaine, nous avons de quoi faire. Je répète, 16 ans de Philippe Lioré, j'aime beaucoup Philippe Lioré, Nostalgia de Mario Marton, Cet été-là d'Éric Lartigot, Tirailleurs de Mathieu Vadepied, Les Survivants de Guillaume Renusson, je sais qu'il est venu, enfin, Denis Ménochet est venu présenter le film, mais je ne suis pas allé le voir ce jour-là, au cinéaste. Venez voir, donc, de Jonas Trueba, L'étrange histoire du coupeur de bois. C'est un film qui me paraît être finlandais, vu le nom du réalisateur. Et Professeur Yamamoto par la retraite, c'est un documentaire. Voilà, cette semaine, moi, je vous recommande très chaudement le film Vivre. Mais on peut aller en voir d'autres, bien entendu. Hein. Mais bon, les Banshees d'Inisherin, qui ont de très bonnes critiques, enfin pas que d'ailleurs, ne m'ont pas totalement enthousiasmé. Cœur de rocker, ça se voit si on veut se distraire et qu'on est du troisième âge, on doit pouvoir apprécier ce film-là. Mais moi, je répète, cette semaine, c'est Vivre que j'ai le plus aimé dans les films que j'ai vus. Voilà, sur ces bonnes paroles, bien, je vais vous souhaiter un excellent réveillon, bien entendu, de vous retrouver aussi la semaine prochaine pour vous souhaiter la nouvelle année avec Pierre. J'espère que Pierre pourra revenir la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Voilà, c'était Clap, la dernière de la saison, enfin de la saison, non, pas de la saison du tout, la dernière de l'année civile sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. C'est parti, mon kiki. Thank you.